RJB Info, le journal, Ediane Guenat, bonsoir.
Bonsoir. Les groupes de médias BNJ et Gassman unissent leurs forces pour pérenniser des médias de proximité et de qualité dans la région francophone du canton de Berne. RJB, Canal 3 et le journal du Jura sont appelés à travailler en symbiose. Alors que le bilan du séisme en Turquie et Syrie ne fait que s'alourdir, la chaîne de sauvetage suisse a annoncé aujourd'hui qu'elle ne pourra pas se rendre sur le terrain en Syrie. Par contre, Médecins sans frontières a une équipe sur place. Journée décevante pour les Suissesses aux mondiaux de ski alpin à Méribel. Lara Gout-Berami a perdu son titre en Super G en ne prenant que la 6e place de la course du jour. Météo, la soirée et la nuit seront calmes et froides. La journée de demain sera à nouveau bien ensoleillée avec la présence de gelée le matin puis un redoux l'après-midi. C'est une évolution notoire du paysage médiatique du Jura bernois et de Bienne. Ces prochains mois, les groupes BNJ et Gassman mettront en commun les forces radiophoniques des programmes RJB et Canal 3 pour proposer un programme francophone unique pour le Jura bernois et Bienne sous le nom de RJB. Le journal du Jura rejoindra aussi cette structure. Cette annonce s'inscrit dans une perspective de rapprochement pour assurer la viabilité des médias francophones dans le canton de Berne. La diversité de l'information sera-t-elle prétérité dans la région biennoise? Question posée à Pierre Stelet, administrateur délégué du groupe BNJ.
Au niveau de l'information, Canal 3 francophone était quand même assez faible parce que les moyens à disposition étaient assez faibles. En unissant les forces des rédactions, c'est-à-dire la rédaction d'RJB et la rédaction de Canal 3 francophone, on doit arriver à faire un meilleur programme d'information globalement, clairement. Donc, je ne pense pas que l'auditeur sera prétérité. Alors, il n'y aura plus un jingle Canal 3, ça paraît assez évident. Mais je veux dire, au niveau de la quantité d'informations, il aura plus d'informations, il y aura plus d'informations sur Bienne. Donc, de ce point de vue-là, il sera pas perdant. Maintenant, il y aura aussi un mix entre les animateurs d'RJB puis les animateurs de Canal 3 francophone. Donc, des voix vont se retrouver. Je pense pas que l'auditeur habitué de Canal 3 va se dire ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait avant.
L'administrateur délégué du groupe Gassman va dans le même sens. Ce rapprochement doit permettre aux médias régionaux d'être encore plus performants. Éric Maison.
Le fait de se rapprocher, le fait de collaborer, le fait de s'unir nous donne une taille critique pour affronter l'avenir, mais surtout pour servir la région à la hauteur de ses attentes en termes de qualité, de densité d'information. Et c'est un pari qu'on veut relever. La réunion des forces en présence, l'équipe rédactionnelle du journal du Jura, de Canal 3 et de RJB, va nous permettre d'avoir un pool avec une taille critique suffisante pour mener les enquêtes, pour mener les reportages, pour aussi avoir plus de densité et de qualité d'information. Aujourd'hui, pris séparément, on est malheureusement restreint dans notre information. On prendra, et c'est le principe de cette réunification, prendra toujours le meilleur de ce qui se fait à tel endroit.
Pour parvenir à cette convergence, les groupes BNJ et Gassman créent à part égale la nouvelle société RJB SA. La nouvelle structure sera pilotée par un duo de rédacteurs en chef. Olivier Zano et Laurent Kleisel auront la responsabilité du traitement de l'info en radio, presse écrite et sur les supports digitaux. Classe en moins, plus classe en plus, égale opération complexe. À la rentrée prochaine, 4 fermetures de classes primaires sont pour l'instant prévues dans la partie francophone du canton de Berne. Il y aura aussi 5 ouvertures. Communes, écoles et cantons collaborent pour prendre ces décisions qui impactent enseignants et élèves. Léandre Béret nous illustre ces enjeux avec l'exemple de Tavannes.
À la rentrée de l'année passée, il y avait 23 élèves en première année. Ils seront 28 à commencer l'école en août prochain, puis 32 et 35 chaque rentrée suivante. Le maire Fabien Vorp nous indique avoir mené cette projection en 2017-2018 dans le cadre de la construction du nouveau bâtiment scolaire. Des chiffres donc connus et qui ont permis d'anticiper.
On est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler le creux de la vague. Donc on voit que sur notre plan démographique, on va en remontant et d'ici une dizaine d'années, ça va redescendre.
Faire des allers-retours entre fermeture et ouverture, c'est pas un peu problématique ça?
Je pourrais vous répondre que oui, mais ça dépend du laps de temps. Là, on a plus ou moins une dizaine d'années pour s'y préparer. Donc.
Certes, il y aura donc 2 classes en moins à Tavannes, mais pas de licenciement. Les départs ne seront pas repourvus. Les premiers concernés, les enseignants, se préparent donc à plancher sur des horaires bien modifiés pour la rentrée. Valérie Gerber, enseignante en 3-4H et médiatrice à l'école primaire de Tavannes, explique ce qui va changer.
Concrètement, sur 4 classes, il n'y en aura plus que 3. Ce qui fait qu'on va devoir regrouper des élèves. La direction est en train de plancher sur la meilleure solution pour les enfants. Et puis nous, il faudra qu'on se réorganise, qu'on voit entre collègues comment est-ce qu'on collabore, comment est-ce qu'on fait pour que la situation ne soit pas dommageable pour les enfants.
Et les enfants, justement, eux aussi, sont évidemment touchés par ces fermetures de classe. Finalement, pas tant que ça, assure Valérie Gerber.
Les enfants sont très malléables, donc je pense que pour eux, ça ne va pas changer grand-chose. Ils auront toujours la même qualité d'enseignement. On est une équipe soudée, on est une équipe, on a déjà quelques années d'expérience derrière nous, donc ça va rouler, il n'y aura pas de souci.
Au total donc, il y aura 4 fermetures de classe en primaire dans toute la partie francophone du canton de Berne pour 5 ouvertures, des chiffres assez stables ces dernières années dans la région. Steve Blaisy, chef de section de l'offre ordinaire de l'école obligatoire francophone à l'instruction publique, explique ces décisions.
C'est les discussions qui sont faites avec l'inspection scolaire qui se rend sur place, qui analyse la situation. Et l'inspection scolaire et la commune ne regardent pas seulement une seule classe, c'est l'ensemble de l'effectif de l'école qui est pris en compte. Et ensuite, avec cet effectif, on prend une moyenne de 19,7 élèves, donc 20 élèves. Ça donne le nombre de classes totales. Ensuite, dans le canton de Berne, il y a une immense autonomie qui est laissée aux communes et il y a une pièce importante qui est la direction d'école qui doit organiser et faire fonctionner son école. Et c'est au directeur d'école, en fonction du nombre de classes qu'il obtient, de faire une organisation qui tienne la route.
Il y a actuellement 9787 élèves pour 513 classes dans le Jura bernois, la ville de Bienne et l'école cantonale de langue française à Berne. Et des chiffres qui restent stables ces dernières années selon la direction de l'instruction publique du canton.
Un dossier de Léandre Béret et Céline Reduit que vous pouvez retrouver sur rjb.ch. La fête de la tête de moine revient pour une 6e édition féminisée. Pour la première fois, c'est une femme, Stéphanie Mérilla, qui est marraine de l'événement qui se tiendra du 5 au 7 mai à Bellay. La coprésidente du HC Bienne a plusieurs points communs avec la tête de moine, selon le gérant de l'interprofession, Martin Siegenthaler.
Je pense qu'on a beaucoup de points communs, c'est aussi la passion qu'on partage. Et puis on est très très fiers de présenter la première marraine, c'est la première femme. Puis elle a aussi un caractère, et on est fiers qu'elle vienne sur place et puis de nous raconter un peu plus de leur histoire. Puis en plus, la famille Mérilla, ils sont propriétaires de Métaphile, la Girole. C'est eux qui ont inventé la Girole, c'est eux qui ont apporté beaucoup grâce à la croissance de la tête de moine qui a amené le succès au monde entier.
Vous l'avez dit, première fois que c'est une femme qui est du coup marraine de l'événement. Ça montre que peut-être dans un domaine qui est très masculin, ça avance aussi, il y a de plus en plus de femmes.
Oui, on a aussi la première déléguée qui était élue au mois de novembre. Alors ça avance, ça reste un domaine plutôt masculin, mais ça souligne aussi, sans les femmes, sans les paysannes derrière, les producteurs de lait, sans les familles, c'est aussi eux qui nous soutiennent beaucoup pour la fête de la tête de moine. Ça, on a aussi dit, on aimerait souligner pas seulement les vaches, les producteurs de lait, mais aussi les femmes, toute la famille qui est derrière.
Et notez que l'invité d'honneur cette année est le fromage raclette du Valais AOP. Retrouvez plus d'informations sur le programme de cette 6e fête de la tête de moine sur notre site internet. Chahuté par la pandémie et la conjoncture économique, les métiers de bouche étaient à l'honneur ce mercredi à Delémont. Le concours des métiers de bouche se tenait dans les locaux de la division artisanale du CEGEF. Il réunissait notamment les apprentis cuisiniers, bouchers, boulangers, mais aussi les spécialistes de la restauration formés au CEF à Moutier. Des métiers actuellement très recherchés dans le secteur de l'hôtellerie-restauration qui fait face depuis plusieurs mois à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Des difficultés visibles dès la formation. Jérémy Pignard est allé à la rencontre de ses apprentis.
Occupé à hacher finement les champignons, François fait partie de ces passionnés, de ceux qui rêvent un jour d'avoir leur restaurant étoilé. Pour cet apprenti en troisième année, la cuisine a toujours été une évidence.
Depuis tout petit, je cuisine avec ma mère. Dès l'âge de 11 ans, j'ai commencé à faire des stages en cuisine dans des restaurants. Dès 12-13 ans, je faisais déjà pendant mes stages les horaires des cuisiniers. J'ai toujours adoré ça. On en recherche, donc ça veut dire que j'aurai jamais de mal à trouver une place de travail. Ce qui est plutôt rassurant, tout compte fait.
Les contraintes du métier, il les connaît. Tout comme Julie, qui espère décrocher son CFC de cuisinière en étant arrivée dans la branche un peu par hasard. Mais dans sa promotion, ils sont beaucoup à avoir été découragés par la profession.
Nous, à la base, on était 13. On n'est plus que 4. Effectivement, il y en a beaucoup qui arrêtent. Parce qu'ils se rendent compte que c'est un métier qui est difficile, les horaires, enfin tout. Donc oui, nous, on a perdu beaucoup de monde en route, c'est un peu Koh-Lanta. C'est vrai que des fois, c'est pas facile, surtout au début. faut se le dire, c'est un métier qui est compliqué, qui est dur physiquement, moralement aussi souvent, parce qu'on travaille les week-ends, le soir, des fois on voit nos amis qui font des choses sans nous, mais c'est quelque chose, on s'y habitue finalement, on trouve d'autres moments, et puis on fait avec, et puis quand on est vraiment passionné, ça pose pas de problème.
Même constat chez les apprentis spécialistes de la restauration, également très recherchés, Simon compte bien aller au bout de sa formation et a bon espoir pour sa promotion.
Dans notre promotion, ça va bien, j'ai l'impression qu'il y a personne qui flanche, disons, mais les horaires sont compliqués, et puis nos jours de congé aussi, le fait que ce soit du travail régulier, c'est toujours compliqué.
La bonne nouvelle, c'est que la division artisanale du Cégep a des effectifs fournis lors des rentrées scolaires. Ombre au tableau, beaucoup abandonnent la formation en cours de route, confirme son directeur Tristan Muller.
On a des jeunes apprentis qui commencent dans la formation CFC et qui n'arrivent pas à tenir le niveau scolaire. Et puis, certains apprentis ne sont pas tout à fait prêts à entrer dans la formation professionnelle, ou en tout cas pas dans le cadre de métiers très exigeants, parce que ce sont des métiers de passion, hein, vraiment, mais avec des horaires qui sont compliqués, il faut le dire. On voit que certains ne tiennent pas le rythme.
Les commissions de formation professionnelle se sont donc saisies du problème pour corriger le tir. Elles espèrent emmener davantage de jeunes à la qualification pour soulager les besoins de la branche.
Mauvaise nouvelle pour les personnes allergiques au pollen. La météo ensoleillée de ces prochains jours pourrait déclencher la pleine floraison des noisetiers et des aulnes, alerte aujourd'hui Météo News. La saison pollinique a commencé très tôt cette année, d'ordinaire inexistante à cette période. Les premiers pollens allergisants ont volé dès la première quinzaine de janvier, voire à la fin de l'année dernière dans certaines régions. Le bilan du séisme en Syrie et en Turquie s'alourdit d'heure en heure. Pour l'instant, il s'élève à 11 200 victimes. La chaîne suisse de sauvetage a annoncé aujourd'hui qu'elle ne pourrait pas se rendre en Syrie parce que la zone touchée par le tremblement de terre est encore en pleine guerre civile. Mais Médecins sans frontières a une équipe sur place. L'ONG travaille avec 400 collaborateurs syriens qui tentent d'apporter eau et nourriture aux victimes. Le plus grand défi pour la communauté internationale sera d'aider la population syrienne touchée sur le long terme, estime Étienne Lhermitte, chargé de communication chez Médecins sans frontières.
On est dans une phase où, en parallèle de cette réponse immédiate d'urgence qui est fournie à toutes ces personnes qui sont dans la rue et qui ont un besoin à la fois de logement et puis d'accès à l'hygiène et à l'eau et à la nourriture, c'est une grosse phase d'analyse des besoins, je dirais, de manière plus structurelle. Donc l'aide internationale qui va arriver immédiatement, elle est assez claire et elle est essentiellement d'ordre matériel. Dans un second temps, en revanche, il va falloir s'attaquer à une aide plus structurelle sur la mise en place de services de santé à destination de l'ensemble des personnes, également des blessés qui seront des blessés de longue durée auxquels il faudra porter une assistance soutenue pendant des jours, des semaines, des mois. Et ça, effectivement, ça risque d'être le majeur défi de la communauté internationale pour identifier les bons besoins et après, effectivement, y répondre avec les difficultés d'accès qui sont liées à la fois au fait qu'on est dans une zone touchés par des conflits et puis par un manque d'accès du fait de routes très peu praticables.
Des propos recueillis par Marie Vuillemier.
Et à l'écoute d'RGB, il est 18h14.
Sport. Laragout Berhami perd son titre en Super G. La Tessinoise n'a pris que le 6e rang aux mondiaux de ski alpin aujourd'hui à Méribel. Elle a échoué à 37 centièmes de l'italienne Marta Bassino, nouvelle championne du monde. L'américaine Michaela Schifrin a pris la 2e place à 11 centièmes, tandis que l'autrichienne Cornelia Utter et la norvégienne Kajsa Wikofli se partagent la médaille de bronze à 33 centièmes. Laragout Berhami a manqué le podium pour 4 centièmes. Elle analyse sa manche.
J'ai fait une bonne manche jusqu'à moitié, j'ai bien réussi à skier, c'était comme je voulais. Et puis après, la dernière partie, j'ai plus réussi à faire accélérer le ski, j'ai pas bien travaillé le ski. Et puis du coup, j'ai laissé quelques dixièmes de trop sur la piste.
Il y a un passage entre ombre et lumière où il y a eu beaucoup de problèmes. Pour vous aussi, c'était compliqué cet endroit?
Je pensais plutôt la neige, ça changeait. Du coup, ça accrochait un peu plus. La partie d'où j'arrivais vraiment à faire accélérer le ski. Et la partie où il n'y avait plus vraiment du soleil, c'était plutôt ça. J'arrivais pas à faire courir le ski comme je voulais.
Des propos recueillis par Marceline Michon, notre envoyée spéciale au championnat du monde de ski alpin. Et du côté des autres Suissesses, Michelle Guizine a pris le 10e rang, Johanna Ellen le 13e. Et plus loin, Corinne Souter et Yasmine Floury ont pris les 20e et 22e places. Et demain, place au Super G messieurs avec Marco Odermatt, Loïc Meillard, Stéphane Roggentin et Gino Caviezel au départ pour le camp suisse. L'information revient à 18h30. Belle soirée sur RGB.